Et notre invité ce matin dans le 8h30, Florent Croy, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes le procureur de la République de Gap. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais, de parler du sujet du jour, hein, c'est bien sûr la lutte contre les violences faites aux femmes. J'aimerais revenir sur les faits récents qui se sont produits à Briançon, la voiture du maire Arnaud Mangia qui a été incendiée dans la nuit de ce mardi à mercredi. Aujourd'hui, l'enquête, elle est confiée à la direction régionale de la police judiciaire de Marseille qui a plus de moyens que le commissariat de Briançon.
Alors, plus de moyens humains, puisqu'on est sur la brigade de répression du banditisme, qui est un groupe doté en effectifs de façon très importante, et surtout l'habitude des enquêtes complexes et techniques.
Alors, ces agressions d'élus, vous en aviez déjà parlé lors de votre arrivée dans le département. Ces agressions d'élus, elles ont tendance à se multiplier ou ça reste encore un cas un peu particulier dans les Hautes-Alpes?
Alors, le département des Hautes-Alpes, malheureusement, et encore une fois comme sur d'autres sujets, n'échappe pas à ce type de fait. Alors, heureusement que les agressions ou les atteintes aux élus, qu'ils soient maires ou représentants de la République, ne sont pas aussi graves que celles qu'on a connues ce week-end et hier. Mais il reste qu'aujourd'hui, l'exercice politique, notamment lorsqu'on est maire d'une petite commune, on est exposé à la contestation, à la violence verbale. Et encore une fois, c'est inacceptable. Et je leur ai d'ailleurs témoigné immédiatement à tous de mon soutien lorsque je suis arrivé il y a 2 ans, en leur indiquant qu'ils pouvaient me saisir directement lorsqu'ils étaient eux-mêmes victimes. Et on essaie de les protéger parce que c'est une atteinte à l'autorité de la République et de l'État.
Alors, du côté de Briançon, alors, il y a eu ces deux voitures qui ont été incendiées le week-end dernier, la voiture du maire de Briançon. Vous avez parlé hier d'individus déterminés, mais déterminés à quoi?
Déterminés à nuire à cet élu, à porter atteinte à cet élu. Alors, on est sur une atteinte.
Ça devient vraiment du personnel, hein. Il n'y a pas de hasard là-dedans.
Il n'y a pas du tout de hasard. Il n'y a pas du tout de hasard. Et on sait tous que Arnaud Mangia a une politique volontariste de déterminité en matière de lutte contre la délinquance et l'insécurité, et c'est tout à son honneur. Et malheureusement, il paie aujourd'hui le prix de ce qu'il affiche et de sa politique. Et on voit bien, et lié bien évidemment au fait de samedi à dimanche, que si on est sur une atteinte au bien, c'est sa personne aussi qui est visée. Et les moyens qui sont employés démontrent une vraie organisation dans le passage à l'acte et dans la détermination des auteurs.
Donc ce passage à l'acte serait lié directement à la lutte contre les trafics de stupéfiants menés à Briançon?
C'est une des hypothèses de travail. Lorsqu'on engage une politique en matière de lutte contre l'insécurité, le trafic de stupéfiants en fait partie, mais il y a d'autres thématiques qui sont explorées aussi. Donc ce n'est pas la piste
notamment
unique
qui est travaillée. Notamment la pression migratoire, et on sait qu'il y a beaucoup de tensions du côté de Briançon. Alors revenons sur cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes. 102 victimes en France cette année. Dans les Hautes-Alpes, quel est le bilan?
Le bilan, il est malheureusement aussi négatif depuis quelques mois. On a constaté, je l'avais déjà dit, une explosion des faits de violences intrafamiliales depuis le confinement de mars 2020. Pour vous donner quelques données chiffrées, mais très simples, de janvier à octobre 2021, sur 10 mois, on a plus de 500 faits de violences intrafamiliales sur le département et plus de 350 faits de violences conjugales. Donc, violences intrafamiliales, c'est des violences dans la sphère familiale. Ouais. Donc, on voit que c'est vraiment très, très important. Ça nous fait plus d'une victime par jour, victime de violences conjugales dans le département.
Que des femmes, majoritairement des femmes?
Majoritairement des femmes. Il y a quelques hommes qui peuvent être victimes de ces faits, mais ça reste très marginal.
Jean Castex a annoncé ce matin qu'en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, il y aurait une semaine de l'égalité entre les filles et les garçons dès l'année prochaine à l'école. Est-ce que ce sentiment d'inégalité, vous qui avez l'habitude justement d'avoir face à vous soit des auteurs présumés, soit des victimes présumées, c'est ce qui conduit aux violences?
Ça fait partie, bien évidemment, du processus de violence, mais je pense que ce n'est pas la seule piste de réflexion. L'égalité, on y travaille depuis très longtemps. On voit qu'il y a un décalage, effectivement. Et puis, l'histoire aussi de l'homme sur la femme nous montre que voilà, il y a eu un décalage entre eux dans l'évolution même sociale de la femme. C'est en train d'être rétabli. Mais il y a d'autres causes, malheureusement, à ces violences. La société devient violente aussi. On le constate sur d'autres thématiques.
La précarisation?
La précarisation, les addictions, l'alcool, les stupéfiants sont des causes aussi qui participent à ces violences.
Alors très souvent, on résume les violences faites aux femmes aux violences domestiques, mais ce n'est pas que ça non plus. Il y a quoi d'autre comme forme de violences faites aux femmes?
Alors, il y a deux types. Il y a l'acte unique, le passage à l'acte violent, le coup, la gifle. Et il y a, dans la vie, c'est-à-dire du couple, une dégradation du couple et finalement un mode de vie qui va se construire sur la relation de l'emprise. Donc très souvent de l'homme sur la femme, avec des violences psychologiques, une surveillance, et qui est parfois encore plus difficile à caractériser, même si les violences psychologiques, en droit pénal, c'est un délit, mais c'est beaucoup plus difficile à étayer.
C'est ce que j'allais vous poser comme question. C'est très rare d'avoir un procès pour violence psychologique.
Très, très rare. Alors, on a souvent des moyens de prouver ça avec des textos, des SMS, etc. Mais c'est plutôt exceptionnel.
Et c'est le cas récurrent, en fait, de la violence psychologique qui peut amener à la caractériser. On se souvient qu'il y a le bracelet d'éloignement qui est mis en place. On en est où dans le département?
Alors, il y a deux choses. Il y a une chose qui fonctionne très bien, c'est le téléphone grave danger. Ça fonctionne très bien parce que c'est très souple. C'est entre les mains du procureur de la République. Et moi, il suffit que je choisisse une victime qui a besoin d'être protégée et je lui attribue. Quand je suis arrivé, il y avait zéro téléphone grave danger. Il y en avait un seul qui était dans mon bureau, pas attribué. Il y en a 8 aujourd'hui dans le département.
Comment ça fonctionne, ce téléphone grave danger? Comment vous sélectionnez, j'allais dire, la victime? Et après, qu'est-ce qu'elle fait avec ce dispositif?
Alors, le choix de la victime, c'est d'abord une volonté d'engager un processus judiciaire. Donc, très souvent, une plainte. Deuxième chose, c'est une volonté de rompre la relation avec l'auteur des faits et une séparation physique entre les deux. Et à partir de ce moment-là, on fait une évaluation de la situation, le lieu où elle va s'installer, ou le lieu de son domicile si elle y reste, ses habitudes de vie, et on lui donne un téléphone, qui est un téléphone classique, très, très simple, qui dispose d'un bouton rouge, SOS, qui permet, lorsqu'elle est en danger, d'appeler un téléopérateur qui la géolocalise et qui dépêchera, selon lui où elle se trouve, des forces de police ou de gendarmerie. Donc c'est très simple, c'est très efficace. Ça a déjà permis sur une victime d'alerter les services de police et de la mettre en protection. Donc ça, il faut l'encourager. Et c'est plus difficile pour le bracelet anti-rapprochement, qui est quasiment le même dispositif, mais l'auteur des faits a en plus, lui, un bracelet, parce que c'est une décision de justice et du tribunal. Et on a du mal, et je le dis, le ministère public et le parquet a du mal à en convaincre encore le tribunal de la systématisation de cet outil qui est pourtant efficace.
Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque?
Ce qui peut bloquer, c'est que lorsqu'on attribue un bracelet anti-rapprochement, il y a deux zones qui sont créées. Et souvent, les personnes vivent dans la même ville et il est difficile de mettre à l'écart l'auteur des faits.
D'accord. Alors, si je résume, bracelet d'éloignement, la peine est tombée, il y a eu reconnaissance. Par contre, téléphone grave danger, il y a encore suspicion.
Exactement. On est dans une enquête en cours qui parfois se terminera pas forcément vers la traduction de l'auteur devant le tribunal.
L'auteur présumé est au courant quand même qu'il y a ce téléphone grave danger?
Pas forcément, non, il n'est pas au courant.
Pas du tout. Alors, il y a un autre dispositif qui va être mis en place, la commission de lutte contre la prostitution. Ce sera mis en place cet après-midi, installé dans les Hautes-Alpes avec la préfète Martine Clavel. Une prostitution qui prend quel visage dans le département? Là aussi, je vous pose cette question parce que c'est vrai, quand on habite par exemple à Lyon, à Marseille, à Toulon ou à Paris, on connaît le visage de la prostitution, mais dans les Hautes-Alpes, on a du mal à s'imaginer que ce phénomène existe.
Alors, d'abord, je rappelle que le procureur de la République, il s'intéresse à la prostitution en titre de phénomène de société, mais il s'intéresse au proxénétisme, puisque la prostitution, ce n'est pas un délit.
Voilà,
quand même le rappeler.
Oui, exactement.
Le proxénétisme, donc c'est ce qui intéresse le procureur, c'est qu'une personne va se livrer à la prostitution contre son gré. On a quelques dossiers qui ont émergé dans le département. À titre d'exemple, le 9 décembre, devant le tribunal correctionnel, il y aura deux dossiers de proxénétisme qui seront jugés. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que, mais ici comme ailleurs, c'est qu'on n'a plus de prostitution de rue. C'est-à-dire que les personnes se prostituent soit dans des appartements privés, soit dans des hôtels, et qu'il est donc difficile pour les policiers ou les gendarmes d'observer la transaction ou la mise en relation avec le client. Mais on essaie, avec des moyens d'investigation, notamment sur les réseaux sociaux, puisque c'est par ces biais-là souvent que les annonces sont passées, de déterminer si une victime, parce que moi, une prostituée, je la considère aussi comme une victime, et c'est aussi l'enjeu de cette commission qui sera installée cet après-midi, c'est de permettre à des personnes qui se sont livrées à la prostitution de sortir de cette prostitution. Il y a tout un accompagnement social qui sera mis en place, proposition d'hébergement par l'État, proposition de contrat de travail le cas échéant, pour finalement, entre le choix de se prostituer et le choix d'être inséré, on choisit la voie légale.
Parfois, quand il y a prostitution, il n'y a pas forcément de proxénète. Il y a aussi simplement une situation qui amène une personne à faire un choix.
Lorsqu'on parle du plus vieux métier du monde, c'est qu'il y a des personnes qui ont le libre choix de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Et elles peuvent le faire, livrer leur corps à autrui contre rémunération. Et ça, ce n'est pas interdit par la loi, même si on peut peut-être le condamner sur le plan de la morale. Le procureur de la République, il fait d'abord du droit. Et il y a quelques dossiers où des proxénètes, parce que c'est un marché qui rapporte de l'argent, peuvent aussi s'intéresser à des personnes qui font librement ce choix-là, mais qui vont essayer de récolter une partie de l'argent de la prostitution, notamment en assurant une protection de cette personne.
Alors, le proxénétisme, vous le disiez, il y a deux dossiers hein, qui vont être jugés le 9 décembre prochain. On parle bien de proxénétisme, hein, deux personnes. Le proxénétisme aussi, c'est une façon d'attirer, vous le disiez, une personne vulnérable, mais la vulnérabilité a différents visages. On a beaucoup parlé des étudiantes qui vendent leur corps. Mmh. On parle aussi beaucoup de ces femmes issues de la migration et qui eh bien, n'ont plus d'autre choix aussi que de faire partie de réseaux de traite. Le proxénétisme dans les Hautes-Alpes, c'est ce type de visage ou c'est encore autre chose, une précarisation?
Ouais. Alors, le volet étudiant, ce n'est pas quelque chose de très prégnant dans le département, même si voilà, j'ai pu le connaître ailleurs. Par contre, et sans rentrer dans le détail d'un dossier que nous examinerons cet après-midi, nous avons une personne qui s'est livrée un temps à la prostitution, qui est dans un parcours de sortie et qui était à l'origine une personne en situation irrégulière. Donc, quel est l'intérêt aussi, peut-être, voilà, de permettre la régularisation d'une personne qui choisit finalement de s'insérer complètement dans le département et dans notre ville.
En tout cas, votre message aujourd'hui, c'est de dire que le parquet de Gap est extrêmement actif quant à la lutte contre les violences faites aux femmes, malgré le fait que ces violences sont polyformes, malgré le fait qu'il y a plusieurs auteurs et qu'il y a plusieurs victimes.
Ce que je dis sur les violences faites aux femmes, c'est que les beaux discours, c'est fini. Voilà. Avant, on ne tenait même pas les discours. Donc, il y a eu du progrès quand on a dit que c'était une priorité. C'est très bien. Mais maintenant, il faut des actes. Et moi, mon rôle, c'est de protéger les victimes. Et lorsque je vois une victime qui est passée devant le tribunal et un auteur condamné et un auteur récidivé, je dis que c'est un échec. C'est un échec de la justice et j'assume mes mots. Et on se doit de protéger ces victimes. Et la protection des victimes, elle passe aussi par la fermeté.
Et là aussi, il faudra certainement améliorer un petit peu le dispositif, en tout cas aller un peu plus vers le bracelet d'éloignement. Ça, c'est peut-être l'un des points noirs que vous avez noté aujourd'hui. Merci beaucoup, Florent Crouy, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le procureur de la République du parquet de Gap. Merci.